tourisme macabre. Chapitre 1. Le 26 avril 1986, à 1h23. Est-ce que cette date et cette heure vous disent quelque chose? Réfléchissez. C'est ce jour-là, et à cet instant-là, que le réacteur numéro 4 de la centrale nucléaire de Tchernobyl a explosé. Au départ, un simple exercice de sécurité sur les pompes de refroidissement. La suite, vous la connaissez. Un panache de poussière radioactive se baladant au-dessus de l'Europe du Nord, une multiplication des cancers de la thyroïde, de toutes sortes de saloperies vachement mortelles à la longue, et une zone d'exclusion de 2200 km² côté ukrainien et de 2500 km², la taille du Luxembourg, je l'ai lu dans un guide, côté biélorusse. Plus, une ville de 50 000 habitants évacuée. La fameuse zone interdite. Sauf pour ceux qui, comme nous, sont prêts à y mettre le prix. Le pays a besoin de devises, c'est clair. Et Mara et moi, on est guère du genre à se dorer la pilule aux Seychelles. Non, nous, ce qui nous branche, c'est trekker hors des sentiers battus, plonger avec les requins ou dormir dans un igloo, ce genre de choses. Alors, lorsque Quentin et Rachel nous ont proposé d'aller visiter Tchernobyl, on a dit « Pourquoi pas ?» Un voyage de 2 jours. Au moins, on était sûr de ne pas croiser trop d'exemplaires de cette espèce qu'on appelle entre nous le touriste de masse. Le touriste de masse regarde la misère, choisit le bon angle et il en fait un cliché instagrammable. Le touriste de masse considère que le monde lui appartient. Le touriste de masse consolide les régimes oppresseurs, dont la plupart du temps il ne sait pas grand-chose, en leur apportant des devises sonnantes et trébuchantes. Puis, il retourne à son confort moderne et démocratique, auquel il trouve tous les défauts tout en se réjouissant de ne pas vivre dans le pays qu'il vient de quitter. Je l'entends d'ici, le touriste de masse rentrer au bercail. « Chérie, tu trouves pas mes photos réussies? On croirait du travail de pro. Tu sais que l'essence a encore augmenté depuis qu'on est parti. C'est incroyable. Et la misère qu'il y avait là-bas, bon Dieu, ces pauvres gens !» Ainsi parle le touriste de masse. Je n'en suis pas un. Mara non plus. Oui, mais voilà, Tchernobyl aujourd'hui c'est presque aussi blindé que les Ramblas à Barcelone. Bon, j'exagère un rien, mais pas tant que ça. Et ça, on ne le savait pas. Déjà, quand on a quitté Kiev à 8h du matin, ce fut à bord d'un bus bondé d'Américains et de Chinois. On était arrivé la veille au soir et descendu au Hyatt Regency. On avait fait la tournée des bars et on n'était pas vraiment frais le lendemain, mais la perspective de ce qu'on allait voir nous maintenait éveillés et alertes. En grimpant dans le bus derrière Mara, j'ai constaté qu'il n'y avait pas une place de libre et j'ai reconnu tout de suite autour de moi l'accent texan et le parler mandarin. À 33 ans, j'ai pas mal roulé ma bosse. Quentin et Rachel nous attendaient dans le fond. Quentin avait passé son bras autour des épaules de Rachel et ils se bécotaient à qui mieux comme s'ils s'étaient rencontrés hier, à côté d'un couple d'Asiatiques qui avait l'air plutôt embarrassé. Quentin, c'est le genre frimeur. Mara ne l'aime pas. Du moins, c'est ce qu'elle prétend quand il n'est pas là. Lui et moi, on a fait nos études ensemble et on a longtemps été inséparables. Quand on était coloc, Quentin ramenait tout le temps des filles. Quelquefois, elles étaient deux et j'avais le choix entre faire la conversation à la seconde ou sortir avec. Aujourd'hui, il est directeur de recherche à Sciences Po et il a toujours un tas d'explications a posteriori pour des événements que lui et ses semblables se sont pourtant montrés incapables de prévoir. Rachel est 2 fois plus intelligente et plus diplômée que lui, mais elle a compris que la meilleure façon d'avoir la paix, c'est de le laisser pontifier. Quand il ne pontifie pas, Quentin ne fait pas mystère que c'est lui qui a la plus belle femme du lot et il la couvre de baisers, de cadeaux, de petites attentions au point que c'en est gênant. Il ne peut lui adresser la parole sans placer un « chéri, lapin, trésor » au milieu de sa phrase. Mara trouve ça infantile et sexiste. Tout comme sa manie d'exhiber à la moindre occasion son ventre plat, ses abdos et son bronzage. À notre première rencontre, 4 ans plus tôt, Mara m'a expliqué qu'elle n'aimait pas les garçons de plage. Elle m'a déclaré qu'elle préférait les physiques singuliers. Ça tombe bien, j'ai un physique singulier. Une peau blanche qui rougit plus qu'elle ne brunit, un nez qui fait autant d'ombre à mon visage qu'un style sur la table d'un cadran solaire, et un œil qui dit merde à l'autre. Mara, elle, est petite, mince, allée, diablement jolie. Peut-être pas aussi canon que Rachel, mais à mes yeux, bien plus sexy. D'ailleurs, j'ai plus d'une fois surpris sur elle les regards de Quentin. Quentin considère que toutes les femmes, sans exception, doivent avoir envie de coucher avec lui. Ça ne me gêne pas qu'il reluque Mara en douce. Ce qui me gêne, c'est que Mara, qui n'arrête pas de le critiquer dans son dos, devient tout à coup une autre quand il est là. Comme si elle voulait se prouver qu'elle peut, elle aussi, mettre n'importe quel homme à ses pieds. Il y a même eu certains soirs à table où Rachel et moi cessions d'exister pendant que Mara et Quentin menaient la conversation sans plus se préoccuper de nous. Des moments embarrassants, pour Rachel comme pour moi. Ces soirs-là, j'ai senti la morsure de la jalousie. À moins qu'il ne se soit agi d'un réflexe de mâle alpha relégué au rang de bêta. Et j'ai croisé le regard malheureux de Rachel. « On vous a gardé deux places !» a dit Quentin en montrant les deux sièges vides à sa droite au fond du bus. Mara s'est assise à côté de lui, m'abandonnant le coin près de la vitre. « Bien dormi ?» a demandé Rachel en se penchant vers nous. « Ah, j'ai une de ces migraines !»« Ouais, » ai-je répondu distraitement. « Ce bus est plein. Tous ces gens vont à Tchernobyl. »«
T'as raison, mon pote !»
a renchéri Quentin.
« Il est sacrément rempli d'Amerloc et Chintox, ce satané bus !»
J'ai espéré que les deux Chinois assis à côté de Rachel ne comprenaient pas le français. Puis mon regard est tombé sur le genou de Quentin appuyé contre celui de Mara et j'ai oublié les Chinois. En même temps, on était tous serrés les uns contre les autres. Le voyage a duré un peu plus de 2 heures, pendant lesquelles j'ai fixé à travers la vitre sale cette campagne plate, recouverte de neige et balayée par le vent. Silencieux, renfrogné, tandis que Mara et Quentin ne cessaient de disserter. La voix de Mara résonnait dans mon esprit autant que dans mon oreille. À un moment donné, elle a dit « Moi aussi, j'aime la cuisine japonaise. » C'était faux. Elle détestait ça. Puis, on est arrivé à l'entrée de la zone interdite. C'était encore pire que ce que j'avais craint. Des quarts de touristes, un embouteillage au checkpoint. On se serait cru autour du Parc des Princes un soir de match. « Bordel !» a dit Quentin. « Ça craint !» j'ai dit. « Tous ces gens viennent d'où ?» a demandé Mara en se tournant vers Quentin.
« Du monde entier » a-t-il répondu. « On appelle ça le tourisme noir !»«
Le tourisme noir ?» a-t-elle relevé d'un ton prodigieusement intéressé. « Qu'est-ce que c'est ?»« C'est ce petit jeu, » ai-je pensé. Tu trouves pas que c'est humiliant? Où est passée la Mara que je connais?
C'est une forme de tourisme qui consiste à visiter des lieux associés à la mort, à la souffrance et au macabre, a-t-il dit.
Waouh! A réagi Mara.
Dit comme ça, ça fout drôlement les jetons. Quel lieu?
A-t-elle voulu savoir.
Eh bien, les sites de catastrophes nucléaires, comme ici ou à Fukushima, des lieux de détention et de torture, d'anciens bagnes, des camps de concentration, des lieux où on sévit des tueurs en série, où on s'est livré à des massacres, à des génocides, ou encore des endroits tels que la forêt d'Aokigahara au Japon, connue comme la forêt des suicidés, et aussi les lieux de catastrophes naturelles, éruptions volcaniques, tsunamis, tremblements de terre.
« Pourquoi les gens font ça ?» a demandé Mara avec dans la voix un vibrato qui trahissait son excitation.
« Et pour le grand frisson, chérie ?» Le vertige du réel, de la mort, de la souffrance, de l'horreur.
Oh, pas l'horreur bidon des films, non. Celle qu'on peut toucher du doigt.
Il existe même un top 20 des destinations les plus dérangeantes au monde. Depuis quelques années, ça se développe grâce à Internet. Il y a des centaines de lieux à la notoriété négative répertoriés à travers la planète désormais.
J'ai pas aimé qu'il appelle Mara chérie, ni la voir sourire à ce moment précis.
Ça se développe aussi grâce au cynisme des tour opérateurs, à l'indécence du public et aux dérives du tourisme de masse, j'ai ajouté. Mais personne ne m'a prêté attention.
Dès qu'une catastrophe se produit quelque part, a continué Quentin, cette forme de tourisme macabre apparaît. On peut trouver ça choquant ou voyeuriste, surtout quand la catastrophe est récente. Mais après tout, ce genre de phénomène a toujours existé.